Et donc, dès le départ, sur des films comme Le Brasier ou sur Torero, en effet, quelle a été, selon vous, l'importance du son, en tout cas dans vos films au cinéma?
Ben, je dirais le son dans la mesure où c'est une part dramaturgique, quoi, le son dans les films, et c'est une part scénarique aussi. C'est-à-dire, il y a une part narrative dans le son, il y a une
Absolument.
part qui crée l'émotion et qui crée la tension et qui crée aussi la narration, je dirais. Donc sur tous les films que j'ai faits, je dirais que le son a participé de ça. C'est-à-dire que en effet, il y a un travail et sur la musique et sur les effets sonores et sur les dialogues et qui fait qu'on a envie que la courbe émotionnelle fonctionne sur l'ensemble du film, quoi. Je dirais que le son participe au moins à 50% de cette courbe.
Tout à fait, absolument. Et donc, si j'en viens maintenant au serpent, effectivement, donc quelle a été la forme que vous avez souhaité donner finalement au son et à tout l'univers acoustique du film? Et en particulier, quelle a été votre vos liaisons au pluriel avec le mixeur ou le créateur sonore? Qu'est-ce qui a été pour vous la part la plus décisive, en tout cas, dans la création du son de ce film?
Bah, dans la création du film sur le serpent, en fait, je dirais que le centre, ça a été l'apport musical, puisqu'on a travaillé sur une musique qui était une musique en fait sonore aussi. Hein.
Tout à fait, absolument.
Qui était un mélange en fait de sons et de sons et d'instruments. Donc, et à partir de là, le travail sonore avec les monteurs son et avec le mixeur s'est fait en interaction avec la construction musicale et donc avec l'univers musical qui était proposé par le musicien, plus les effets qui devaient en fait renforcer cet univers musical.
Absolument, tout à fait. Alors, Renaud Barbier est votre frère, j'imagine?
Oui,
tout à fait, voilà. Et donc voilà, donc à l'écoute du film que j'ai revu donc très récemment pour chroniquer le DVD, on se rend compte en effet qu'il y a toute une forme d'alternance entre les effets sonores et d'autres textures musicales qui sont beaucoup plus symphoniques. Et donc on a l'impression que tout cet univers acoustique, non, va guider un petit peu le film et serpenter en lui, pour faire un petit jeu de mots en quelque sorte. Et donc ça a été, on peut penser à des gens comme Alfred Hitchcock par exemple, et c'est véritablement ce qui vous a semblé être prédominant. Est-ce que c'est quelque chose qui reste purement secondaire, ou est-ce que c'est directement lié à tout ce qui touche la narratologie du film, la science du détail? Quel est votre point de vue de créateur et de metteur en scène là-dessus, justement?
Ben, disons que la musique dans tous les thrillers a une part assez importante, hein, puisque c'est aussi sur... Vous parlez d'Hitchcock, il y a eu une démonstration qui a été absolument magnifique, qui a été faite dans un documentaire sur la scène de Psychose, où il y a Janet Leigh qui conduit la nuit, et où il y avait une démonstration avec et sans musique, et en fait on se rendait compte que la musique amenait 60% de la scène, quoi, sur cette séquence. Donc sur le thriller, je dirais sur la tension, sur l'inquiétude, sur le danger, je dirais que la musique amène une grosse part. Donc avec mon frère, en effet, on a travaillé beaucoup sur les moments musicaux comme ça, sur les interventions de Plender notamment.
Oui.
On a essayé de créer un motif qui fait que chaque fois que ce personnage rentre dans l'histoire, on a une espèce de ritournelle inquiétante qui fait qu'on renforçait l'aspect dangereux du personnage.
Donc, si j'en viens maintenant au tout début du film, je crois que le film, Le Serpent, donc, s'ouvre sur une sorte d'effet sonore musical. Et donc, dès le départ, on a un petit peu le sentiment d'accéder en quelque sorte à la matrice du film, au travers de la musique, au travers des sons, justement. Et je voudrais plutôt qu'on insiste sur une séquence bien particulière, qui est celle de la grande séquence de l'escalier, justement, de la chute. On se rend compte à un moment qu'il y a une science du détail, beaucoup de détails qui sont incrustés dans la bande son, notamment la main du personnage joué par Yvan Attal sur la rampe de l'escalier. Comment a été créée cette séquence, notamment du point de vue sonore? On a l'impression qu'il y a presque eu un storyboard sonore qui a été mis en place. Et quel est votre point de vue, encore une fois, de metteur en scène sur cette séquence?
Bah, c'est une séquence purement de suspense, hein, donc, puisque la construction dramatique sur la scène, c'était est-ce que cette fille va tomber ou est-ce qu'elle va pas tomber, est-ce que Vincent va réussir à la sauver ou va pas réussir à la sauver. Donc à partir de là, tous les éléments, tous les détails sonores et les impulsions musicales ont été construites pour guider la scène vers cette tension-là. Donc quitte à mettre, à un moment donné, justement, il y avait des scènes où on avait tourné des scènes avec le personnage qui appelait.
Mm-hmm.
Au secours, et en fait on a supprimé ça justement, pour rester que dans les sons, pour rester que sur les sensations sonores, pour pour faire qu'on était beaucoup plus proche au niveau de l'univers sonore dans la tête de Vincent, un petit peu de ce qui se passait dans la tête du personnage principal. Donc forcément, c'est une scène qui a été travaillée par les monteurs son sur beaucoup de détails, ce que vous donniez comme effet, hein, sur les effets de glissement, sur les effets d'avancée sur la rampe, métallique, sur la chute de la fille, sur tous ces bruits-là qui étaient en plus amplifiés par le cadre, puisque ça se passe dans un endroit où il y avait beaucoup de réverbération, puisque le lieu est assez impressionnant, assez gigantesque. Donc forcément, ça donnait une matière, une couleur au son qui était assez intéressante et qui permettait justement de dramatiser beaucoup la séquence.
Absolument, d'accord. Et en tant que metteur en scène à ce niveau-là, vous avez été très étroitement lié avec les mixeurs et les créateurs sonores?
Forcément, ça veut dire que tout le monde travaille, je dirais, un petit peu ensemble, hein, puisque la musique est amenée, et sur la musique on compose les effets sonores, et ensuite sur les effets sonores, quand tous ces effets sonores sont mélangés, on se retrouve au mixage avec beaucoup de propositions, puisqu'il y avait une bande sonore qui était assez importante à la base. Donc après, avec les mixeurs, c'est des choix, et les gens qui ont monté le son, ce sont des choix qui s'opèrent au mixage pour justement avoir je dirais une scène qui est le plus tendue possible.
Alors j'aurais une citation très célèbre de André Bazin à vous proposer. Il définissait donc l'apport spécifique du cinéma, je cite, comme un surcroît de théâtralité. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Au niveau du son en particulier, beaucoup de critiques ont considéré que dans le cinéma moderne, c'était les images et les sons qui dominaient l'essentiel de la mise en scène, notamment quelqu'un comme David Lynch, par exemple, qui a écrit un jour, me semble-t-il, que le cinéma naissait d'un désir très fort d'unir des sons à des images. Et donc par rapport à un film très codé comme Le Serpent, qui est un thriller, qui est un film avec beaucoup de dimensions justement, en quoi vous rapprochez-vous dans votre travail de cinéaste de quelqu'un comme par exemple David Lynch qui associe les images au son de manière tout à fait intime?
En même temps, Lynch, c'est un peu particulier parce qu'il a une écriture, cinématographique et sonore très particulière, hein, qui appartient bien vraiment sûr qu'à lui, quoi. Donc, je dirais surtout que le son aujourd'hui a... Il y a une chose qui a beaucoup changé, je pense, dans le cinéma aujourd'hui, c'est en effet l'apport du son, mais ça peut être aussi un apport sonore négatif au son, au sens où on a une surenchère sonore pour masquer à certains égards, je dirais, des problèmes narratifs, ou des problèmes de mise en scène, ou des problèmes comme ça, ce qui je pense est assez récent, ça fait une dizaine d'années. On se rend compte que il y a une surcharge sonore, notamment dans les films américains, qui fait qu'on étouffe un peu le spectateur qui se retrouve complètement perdu et le son crée une surcharge dramatique qui correspond pas forcément aux images qui ont été filmées ni à l'histoire qui est racontée. Et donc forcément, pour revenir au serpent, le travail c'était d'arriver à intégrer cette nouvelle dimension sonore, puisqu'aujourd'hui c'est vrai qu'en termes de son, on arrive à faire un son qui est particulier, mais qui interpelle le spectateur de manière très très forte et assez violente. Donc c'était de participer évidemment de cette modernité du son, hein, puisqu'on a un son qui est de plus en plus pointu, avec une possibilité de plus en plus importante de mélanger des sons, de travailler des sons, des samples. Donc on a une gamme de travail qui est de plus en plus immense. Et en même temps, c'était de respecter respecter le spectateur, ça veut dire que de ne jamais surcharger une scène en son alors que ça ne correspondait pas à la scène, par exemple, ou de ne jamais surcharger une scène en musique alors que ça ne correspondait pas à la scène, juste pour masquer la misère, ce qui arrive relativement souvent, on le voit assez souvent dans les films.
Absolument, on est bien d'accord sur ce point, tout à fait, tout à fait. Et donc justement par rapport à l'univers créatif du cinéma français, c'est la différence essentielle que vous voyez entre une bonne partie du cinéma nord-américain et le cinéma français qui est beaucoup plus réaliste, tourné vers la véracité des émotions sonores. C'est vraiment comme ça que vous percevez la chose ?
Enfin, le cinéma américain c'est un petit peu générique, hein, parce que le cinéma américain il y a beaucoup de choses, quoi, hein. Il y a aussi le cinéma indépendant qui est souvent plus intéressant. Là, je parlais plutôt des grosses machines et des choses comme ça.
Bien sûr.
Non, sur le cinéma français, en effet, je pense que le travail depuis toujours en France a été. Je pense qu'il y a une justesse du travail sonore en France, qui est souvent assez, le travail sonore en France est souvent assez proche des films. C'est-à-dire que le son ressemble assez fort au film qui se, à la réalisation des films, et donc je trouve ça plutôt intéressant.
Et donc, entre votre premier long métrage, qui est le Brasier, et entre Le Serpent, donc, qui est sorti très récemment en salle, en tant que cinéaste, quels ont été finalement les outils qui ont pu évoluer entre ces deux films, entre le début de votre carrière dans le long métrage en tout cas, et la poursuite de la carrière quelques années plus tard, qu'est-ce qui vous a semblé plus facile, plus abordable, plus intéressant sur le plan technique entre ces deux films?
Pour moi, la différence, elle est absolument immense. Ça veut dire que le Brasier, je l'ai monté en 35 mm avec une table de montage et des chutes. De même qu'on a monté le son avec des chutes et des repiquages de son sur des tables de montage, alors qu'à partir de Torero, évidemment, on est rentré sur des montages avec des avides et avec... Donc forcément, la différence pour moi, elle est immense.
Tout à fait, oui.
J'ai connu les deux époques du cinéma, ça veut dire celle où on avait un montage en 35 mm qui correspondait à mon premier film, et celles qui sont des montages maintenant avec des ordinateurs, et qui fait que on n'a plus de chute, on n'a plus toute cette manipulation qui faisait qu'on était obligé d'avoir une dizaine de personnes comme assistantes dans les salles de montage. On avait 2-3 salles ou 4 salles de montage. Donc forcément, pour moi, la différence est vraiment très importante.
Au niveau du choix du codage DTS, est-ce que vous avez eu un rôle lors de l'exploitation du film au cinéma? Est-ce que c'est votre choix, un choix qui est guidé par la production simplement, ou disons simplement par le simple fait du hasard?
Non, je pense plutôt ça là-dessus. Je laisse. Ça a été plutôt des décisions avec le mixeur et tous les gens qui étaient vraiment très concernés par le son, qui ont choisi ce format et qui trouvaient que c'était le plus adapté au film. Hein, donc c'est plutôt à eux qui ont poussé pour avoir ce type de codage, quoi.
D'accord, absolument. Et en tant que cinéaste, vous avez pu observer un avantage, qu'il soit technique ou artistique particulier, qui mette davantage votre travail en avant avec le DTS?
Honnêtement, non.
Honnêtement, non. D'accord.
Non, ça veut dire que je pense que le travail, après, je dirais les degrés de performance technique, je pense que quand on réalise, si vous voulez, je pense pas que ça soit quelque chose où on est totalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui rend mieux notre travail. Le travail se fait beaucoup sur la narration, je dis à mon avis, hein, sur la narration, sur comment on raconte, sur le mixage, c'est-à-dire la place qui est donnée à la musique, la place qui est donnée à la parole, comment on va mélanger des sons. Ensuite, je dirais techniquement la restitution de ces effets-là, dans la mesure où on écoute, où on a l'impression que cette restitution est bonne, que ça soit en tel format ou tel format, ou que ça soit en tel format sonore ou tel format visuel, je dirais à la rigueur, ça concerne moins le metteur en scène. Le metteur en scène, je crois, hein, c'est quand on écoute, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on est satisfait du résultat, est-ce que ce résultat correspond à ce qu'on avait imaginé.
Oui.
Dans la mesure où ça correspond à ce qu'on avait imaginé, après, je dirais, les différences techniques, ça veut dire que c'est des choses qui nous concernent un petit peu moins. C'est comme si on vous disait, voilà, on prend un zoom ingénieux ou un zoom Cook, et à un moment donné, un réalisateur, ça n'intéresse pas. Ce qu'il voit, c'est quel est le rendu de tel zoom et quel est le rendu de tel zoom. Et il dit, voilà, moi ça, j'aime bien ça. Mais après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais le tel zoom est plus performant. Mais c'est pas très important, puisque c'est le choix du metteur en scène. Il voit,
absolument.
Il écoute. Et à partir du moment où ce qu'il écoute lui correspond et ce qu'il voit lui correspond, il est content. Après, quels que soient les formats. Hein.
Quels que soient les formats, tout à fait, bien sûr. Donc c'est le respect des timbres, le respect de votre travail, tout simplement,
Après, il y a aussi des gens qui vont peut-être choisir autre chose, parce que c'est peut-être moins performant techniquement, mais ça correspond peut-être plus à l'histoire qu'il veut raconter.
Absolument.
Ou des choses comme ça. Donc c'est...
On est bien d'accord sur ce point, absolument, tout à fait. Et donc, pour revenir quelques instants toujours sur le codage DTS, au générique de fin de votre film, donc Frédéric Catoni, qui est crédité comme consultant DTS, avez-vous été en liaison avec lui? Est-ce qu'il a apporté quelque chose de particulier, ou bien est-ce qu'il a été simplement en relation avec les mixeurs de votre équipe?
Je pense qu'il a été surtout en relation avec les mixeurs et les monteurs.
Et donc, pour conclure, par rapport à l'édition DVD, donc du Serpent, avez-vous pu avoir jeté un œil sur le rendu du film au niveau de l'image et du son en particulier? Il y a un effort éditorial qui a été particulièrement intense de la part de Whiteside, qui est l'éditeur du film en DVD. Est-ce que vous êtes satisfait du travail final? Est-ce que vous avez des choses à redire? Ou bien, en quoi ça correspond à votre vision?
Ben, écoutez, je pense que c'est ce que vous avez souligné. Ça veut dire que Whiteside a fait un gros travail éditorial sur la DVD, ils ont fait un gros apport au niveau bonus, et un gros apport au niveau de la, je dirais, de tout, de l'ensemble du packaging, du format, du double DVD. Donc je pense qu'il y a eu un vrai travail sur le projet qui ne peut que me combler, je dirais, et moi et la production, puisqu'on était très contents de ce que Whiteside avait mis en avant sur le film.
Donc le film a bénéficié de conditions d'édition qui sont absolument exemplaires. Donc le film est présenté d'après un master qui est certifié THX. Alors c'est de la technique encore une fois, mais d'autres éditeurs ne font pas cet effort-là pour mettre en avant tel ou tel film. Et ici, en l'occurrence, bon, on se rend compte que le travail qui a été énorme sur l'image, qui est donc un corollaire direct du son, ou plutôt vice-versa, si je puis dire, dans le documentaire, le making-of par rapport à votre film, on apprend que vous avez eu des choix très particuliers au niveau de l'éclairage, notamment les lumières qui sont placées au-dessus des personnages, afin de masquer, de cacher leurs yeux lorsqu'ils apparaissent. En quoi finalement, ce sera je pense la dernière question, en quoi finalement ce choix, ce parti pris de mise en scène que l'on trouve au niveau des images, en quoi peut-on également l'appliquer au niveau de l'univers acoustique du film?
Alors pour vous donner des exemples aussi précis, je ne sais pas, mais ça rejoint un petit peu la conversation qu'on avait eue au préalable.
Bien sûr.
Par exemple, pour vous donner une idée, hein, qui est un petit peu comme, c'est pas l'équivalent de la lumière qui tombe dessus pour masquer les yeux, parce que ça tout de suite, mais par exemple sur la musique, pour revenir sur la musique,
oui.
La musique a été écrite avant le film. Ça veut dire que la musique a été composée avant, ça veut dire que quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, j'avais déjà la musique. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a des scènes qui ont été construites visuellement autour de l'univers sonore qui m'était proposé par un musicien.
Mm-hmm.
Puisqu'on a travaillé en fait 4 mois avant le début du tournage sur le scénario et j'avais déjà 4 heures de musique quoi, sur le script. Et quand je dis de musique, c'était pas juste des thèmes, c'était de la musique. Ça veut dire que c'était composé, il y avait plusieurs instruments, il y avait tout un univers sonore. C'était beaucoup plus élaboré que des maquettes, si vous voulez.
D'accord.
Donc à partir de là, il y a des scènes qui se sont articulées. Musicalement, par exemple, la scène où Planeur vient voler la voiture, la voiture dans la maison la nuit, c'est une scène que j'ai construite aussi autour de la musique, en tout cas de la proposition musicale qui m'était faite. Donc la construction visuelle s'est faite autour de cette proposition musicale.
D'accord. Bah, c'est
une... Pareil pour la fin, par exemple, la fin, le dernier plan où Vincent découvre le va sauver sa famille, en fait, le plan séquence est né de la musique qui m'était proposée, hein, puisque c'était un plan séquence donc qui a été remonté après au montage, qui a été recoupé au montage, mais en même temps à l'origine c'était un plan séquence. Je dirais le mouvement du plan a été conduit un petit peu par tout l'univers et musical et sonore, puisqu'il y a toutes les interventions parallèles de la police, etc., etc.
D'accord, c'est une approche très très particulière. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était Sergio Leone qui fait cette approche-là également. Je crois que la musique avait été composée avant la mise en scène pure, effectivement. Donc c'est une approche qui est très très particulière. Et effectivement, on ne peut pas s'en douter à la vision du film, mais à la lumière, donc à la fin de cet entretien, effectivement, je me rends compte que voilà, c'est un film qui mérite beaucoup de louanges, puisque je pense que la part de technique se rejoint totalement, effectue un trait d'union entre le technique et l'artistique, et ça va totalement dans le sens du film et le succès qu'il a pu connaître en salle et qui est doublement mérité. Écoutez, Ribabé, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, très sincèrement, très chaleureusement, et je vous souhaite une excellente continuation. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'heure actuelle?
Oui, en fait, j'ai re-signé en fait avec Fidélité un nouveau projet. J'ai un projet avec une autre société qui s'appelle Vertigo.
Oui.
Voilà, j'ai un projet de film fantastique avec Vertigo et un projet de film de voleur avec Fidélité. Voilà.
D'accord, entendu. Donc Vertigo, c'est pas encore une fois Hitchcock, donc la boucle est bouclée.
Voilà. Ben merci en tout cas.
Merci à vous très chaleureusement et puis donc à très bientôt, j'espère peut-être pour un autre projet, pour un autre film.